Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors donc, quoi de neuf, cher docteur ? Cette semaine, nous allons disséquer un sujet dans l'air du temps, la retraite, ou plutôt les retraites. Face et autour de moi, j'ai toujours mes 3 docteurs, est-ce tout ? Pour parler de caisses sans fond à remplir, de problèmes et peut-être de solutions, nous avons nos vrais faux imposteurs, les alias de quoi de neuf, docteur. Les bistouris affûtés, ils sont prêts à opérer comme chaque samedi sur les ondes et même sur les supports numériques de Divergence FM. Cette émission hebdomadaire étant encore neuve pour la deuxième, je vous représente nos docteurs. Alors nous avons JF, notre docteur House, nous avons JP, notre docteur Mabuse, et YM, notre docteur Jekyll. Ils vont livrer leur diagnostic et ne craignent pas d'être radiés de l'ordre. Alors, qui commence aujourd'hui ? Eh ben, on va peut-être demander, allez, qui d'entre vous ? Docteur Mabuse. Voilà, le docteur Mabuse vient de lever la main. Si le docteur Mabuse lève la main, c'est qu'il a quelque chose à nous dire.
Absolument. Donc, la retraite ou les retraites. Retraite dans un couvent, retraite après une vie de travail, retired en américain, un premier sentiment qui exprime un retrait. Retrait d'une vie active, retrait de la vie sociale, un peu comme le début d'une oisiveté, d'une mise à l'écart, d'une antichambre de la mort, dans une attente plus ou moins miséreuse de la fin. Conquête sociale et libération, prévue dans le programme du Conseil national de la Résistance, elle semble ne plus résister aux nouvelles donnes de la société contemporaine. Si, il y a 50 ans, le plein emploi, la durée moyenne de vie, le dynamisme économique permettaient le principe de la répartition, l'allongement de la vie, nous avons gagné 1 an tous les 4 ans, la crise et le chômage, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans font que le mode de calcul ne permet manifestement plus d'équilibrer les comptes. Il y a 50 ans, on avait 4 actifs pour un retraité, qui mourait à 63 ans en moyenne. Aujourd'hui, on est presque à 1 actif pour 1 retraité qui décède à 79 ans ou 80 ans, sans compter que des nouveaux actifs commencent à travailler à 20, 21 ou 22 ans, au lieu des 14, 15 ou 16 il y a un demi-siècle. Autant dire que le maintien d'une retraite par répartition est mal en point, et que son avenir, sans réforme, est plutôt sombre. Le pire, serait de tomber dans le modèle américain par capitalisation quand on sait que, par économie, 1 Américain sur 4 ne cotise pas et se retrouve en situation de précarité avancée ou obligé à travailler jusqu'à la fin avec toujours des petits boulots plus ou moins déclarés et forcément mal payés. L'allongement des années de cotisation, qui semble une des solutions présentes, l'inconvénient de priver d'emploi les jeunes qui veulent tenter sur le marché du travail et que le chômage frappe le plus fort. La société productiviste dans laquelle nous vivons permet sans doute la production massive des biens de consommation avec l'emploi de main-d'œuvre de plus en plus réduit. Une autre solution serait de réduire le temps hebdomadaire du travail à 30 heures ou moins afin de permettre à tous d'accéder à l'emploi et donc de cotiser pour une retraite largement méritée. Une retraite au flambeau en quelque sorte.
Alors notre docteur Mabuse nous a exposé beaucoup de problèmes. Pas beaucoup de solutions quand même, hein. Donc on va peut-être demander à un autre docteur si lui, il aurait quelques solutions pour soigner ce malade, le malade, le retraité ou la retraite plutôt.
Ah ben le docteur Mabuse a fait, un état des lieux. Il a fait un état des lieux. Maintenant, bon, dans cet état des lieux, même si je ne nie pas l'allongement de la durée de vie, si ça pèse effectivement dans le déséquilibre des caisses de retraite, c'est quand même, à mes yeux, c'est quand même un leurre. C'est la moulette dans l'arène. La véritable cause, ce n'est plus ni moins que le chômage. C'est le fait qu'effectivement, le nombre de cotisants diminue. Parce que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que s'il y avait 1,5 million de chômeurs de moins, ma foi, on ne serait pas si loin que ça
de l'équilibre.
De l'équilibre. Donc le véritable problème, c'est le nombre de cotisants, voire même ce qui... c'est la part globale, même y compris des parts patronales, qui globalement a diminué sous le couvert de la lutte du chômage, où effectivement certaines entreprises ou certaines catégories de travailleurs, etc. Enfin, lorsqu'on emploie certaines catégories de travailleurs, à partir de ce moment-là, les entreprises bénéficient d'exonérations sociales.
Et même d'aides.
Et des, enfin, les aides, ça c'est à part. Donc le déséquilibre, c'est le chômage. Donc on s'aperçoit bien qu'effectivement chômage et chômeurs et retraités sont dans le même bateau, sont dans les mêmes galères. C'est pour cette raison qu'effectivement, s'il devait y avoir une solution, ça serait qu'effectivement il y ait une gestion paritaire, parce que moi je pense qu'effectivement c'est le monde du travail qui doit en priorité gérer tout ça, et effectivement le chômeur et le retraité soient traités dans une seule et même caisse.
Dans le même hôpital.
Dans le même hôpital. Soigné dans le même hôpital. Et donc, à partir de ce moment-là, ça permettrait un regard neuf, nouveau, sur effectivement sur ce problème de société. Et là-dessus, ce que je crois aussi, c'est en prenant en compte au moins deux facteurs. Le premier, c'est que le chômeur, lui, a une inactivité non consentie, alors que le retraité est une activité consentie. Donc à partir de ce moment-là, bon, on peut jouer. Et la seconde, le second point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on s'inscrit sur... certains veulent considérer que le chômage est inéluctable, que le plein emploi n'existera plus jamais, etc. Ou que de toute façon, il ne saurait exister qu'autrement. Il y a quand même les nouvelles technologies. On a vu quand même l'influence de la puce sur le marché du travail. Il suffit de passer au péage des autoroutes, d'aller à la banque ou dans d'autres domaines. On s'aperçoit qu'effectivement, les machines ont supprimé pas mal d'emplois. On s'aperçoit aujourd'hui le net et toutes les reconversions, effectivement, notamment dans le monde du commerce, des échanges, etc. Donc à partir de ce moment-là, que le travail contribue, soit, mais qu'il contribue différemment, que ce ne soit pas simplement au niveau de l'emploi, du moins pour la part patronale. Voilà ce que ce qu'a dit le docteur House.
Voilà. Mais le docteur Mabuse avait quelque chose à rajouter. Il peut, bien entendu. Allez-y, docteur Mabuse.
Oui, chers confrères, juste une remarque. C'est vrai que je ne propose pas forcément beaucoup de solutions, mais je pense qu'il y a un autre problème qui se pose. Le premier, c'est, et je suis d'accord, il faut mettre en place une politique qui permette de lutter efficacement contre le chômage. Je pense que l'allongement de la durée de cotisation ne règle pas le problème. En tout cas, il le règle à très court terme, sûrement pas à plus long terme, parce qu'il permet à des gens plus âgés de continuer à travailler, mais il ne permet pas l'embauche des jeunes, qui sont la catégorie sociale la plus frappée par le chômage. Un jeune sur quatre est au chômage. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut redisposer les éléments. Je crois que... il y a 50 ans, 25% de la population appartenait au secteur productif, etc. Actuellement, on est entre 10 et 12%. Les agriculteurs, le secteur primaire, etc., qui représentait à peu près 20% de la population, actuellement, c'est de l'ordre de 4 ou 5. Donc ça veut dire que l'essentiel de la population cherche un travail dans les services, c'est-à-dire dans l'accompagnement, dans l'organisation de la société. Donc je pense qu'il faut faire une organisation du travail en réduisant drastiquement le temps de travail. Si vous faites un calcul rapide, en gros, quelqu'un qui travaille 40 ans, il va cotiser, il va avoir à peu près 50 000 heures de travail. Ben, peut-être il faut réduire ça, alors à la semaine, au mois, à l'année, je ne sais pas, ou sur une durée de vie, et dire que chacun d'entre nous doit travailler pour cotiser 40 000 heures dans sa vie et donc permettre l'accès des jeunes à l'emploi.
Docteur Mabuse, on va, là on est déjà rentré dans le débat. On verra ça après la position quand même de notre troisième docteur qui n'a pas encore donné son petit grain de sel, son coup de biscuiterie ou ce qu'il veut. Alors il nous reste bien sûr le troisième docteur, le docteur Jekyll. Le docteur Jekyll, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce retraite avec un S?
Jack Grantin, moi je revendique. Je revendique la mouche là, parlait qu'on risquait d'être rayé de l'ordre. Et bien moi je demande à être rayé de l'ordre, à être admis dans le désordre. Bon. C'est l'historien fragmentiste, amateur, qui va discuter un peu de la chose. Parce que chômeur, retraité, non consenti, consenti dans la série « Tu veux ou tu veux pas travailler ». Bon, ça c'est une chose. En fait, le problème, il est complètement tout autre. Le problème, il est vicié, il était foutu d'entrée. Pourquoi ? Parce qu'en 1943, contrairement à ce que disent les manuels d'histoire en terminale, heureusement qu'ils vont supprimer les programmes, comme ça on n'en parlera plus, c'est là le début du baby-boom. Ça veut dire que d'ailleurs, les gens ont fait des gamins, 9 mois avant, si tout va bien, c'est-à-dire en 42, c'est-à-dire là où la France était allemande, alors totalement, alors comment ça se fait que les gens, alors que la France était allemande, était en occupation, il n'y avait pas encore eu Stalingrad, etc., comment ça se fait ? Ils étaient contents, ils se sont mis à faire des gamins, alors ça c'est un grand mystère, bref. À partir du moment où il y avait un baby-boom qui va durer de façon extrêmement active de 43 à 54, pour après se diluer un peu plus jusqu'en 75, forcément, ces gens-là, un jour ou l'autre, ils auraient 60 ans ou 65 ans.
Eh oui.
Alors, là-dessus, il y a De Gaulle qui, par le biais du programme du CNR, comme le rappelait ce bon Mabuse, établit les retraites par répartition, sachant que Pétain, déjà, avait initié un petit peu la chose, et que même le Front Populaire avait pré-initialisé la chose. Bon, très bien. Mais en fait, c'était qu'un demi-problème, parce que la retraite était prévue à 65 ans, et l'espérance de vie était inférieure à 60 ans.
Ah, c'est ça réglait le problème.
C'est-à-dire que tu n'avais aucune chance, en gros, statistiquement, d'accéder à la retraite. Donc pas de problème, ça tombait bien, puisque les types qui partaient à la retraite en 45, 46, 47, par définition, n'avaient jamais cotisé de leur vie.
Ben non.
Ou un an, ou deux. Donc, c'était pas un problème, vu que, de toute façon, ils étaient morts. Bon. Alors, en 54, ça c'est Mendès France. Il a eu une idée. Parce que, vite fait, le problème, quand même, commençait à se poser. Alors, il a instauré la fameuse vignette automobile. Et la vignette, c'était pour financer, comme on disait à l'époque, la retraite des vieux. Bon, ça n'a jamais servi à financer la retraite des vieux, ça a servi à tout ce qu'on a voulu, sauf à ça. Bon, très bien. Et puis, mais, on était au cœur du baby-boom. Baby-boom, bah, tout va bien. Beaucoup de cotisants, notamment à partir de 1963, quand les baby-boomers deviennent adultes et puis rentrent sur le marché du travail, il y a du boulot pour tout le monde cotise, il n'y a pas de problème.
Il y a des étrangers qui arrivent en masse, qui
tout
cotisent.
Tout va bien, les caisses sont pleines, parce que mes vieux, c'est con, ils meurent toujours. Alors plus à 58 ans, on a 59 ans, 60 ans, mais toujours pas 65 ans, en moyenne. Et puis, il ne se passe plus rien. Alors qu'il était parfaitement clair que 1943 plus 65, 2008, oui, j'y dis bien, il y a un problème, puisque les baby-boomers devenant papy-boomers, ils allaient arriver en masse. Alors, 1981, ce couillon de Mitterrand, qu'est-ce qu'il fait ? Il abaisse l'âge légal de la retraite, alors que l'espérance de vie avait largement dépassé 60 ans. Bon, alors du coup, là, ça allait poser problème. Il allait y avoir un maximum de retraités, alors que le chômage commençait à augmenter de façon, non pas conjoncturelle, mais de façon structurelle. Avec une espérance de vie qui monte, plus de vieux, moins de cotisants, pas de problème. On a inventé les caisses complémentaires. C'est-à-dire que, du coup, les caisses de retraite normales, la Sécu, ça allait te donner 2 francs 6 sous, à l'époque, des francs, et puis bah, tu cotisais à la caisse des cadres, à la caisse de ci, à la caisse de machin, à la caisse de milieu, ce que tu veux, et puis avec ça, bon an, mal an, ça te faisait à peu près un truc. Et puis, il ne se passe plus rien, après 81. Puis d'un coup, en 2003, bon, il se trouve que c'est un gouvernement de droite, c'est Raffarin à l'époque. Si tu étais un gouvernement de gauche, la question se posait exactement de la même façon. Les papy-boomers, ça y est, ils ont 60 ans.
Et ils vivent.
Et alors là, maintenant, l'espérance de vie, comme le disait Mabuse, elle est maintenant de plus de 70 ans, etc. Et la crise structurelle n'est toujours pas résorbée, avec les 3 millions, malgré les 3 millions d'emplois créés par Jospin entre 1997 et 2002. C'est vrai qu'entre-temps, il y avait eu le 11 septembre 2001 et qu'il y avait eu une crise ounette qui s'était profilée. Bon, alors Fillon, à l'époque, ministre du Travail, fait une réforme presque obligatoire. Il y a beaucoup trop de mecs qui vont arriver à la retraite. Il y a un chômage
qui monte.
Bon, il y a problème. Et il y a déjà problème, d'autant qu'à l'époque, c'est 50%. Aujourd'hui, c'est 37%. Des gens de plus de 50 ans n'ont plus de travail. Ça pose sérieusement problème. Donc, c'est des mecs qui, forcément, quoi qu'il en soit, de 50 à 60, ou si on augmentait l'âge légal de la retraite, pendant 10, 12 ans, etc., allaient être au chômage et non pas à la retraite. Et là, je suis d'accord avec le Dr House. Ah ben, il faut créer une caisse, une mutuelle, une caisse mutuelle entre les chômeurs et puis les retraités. Bon, ça, évidemment, on ne fait pas. Et puis, ben, 2010... Après la crise des subprimes et tout, la crise financière de 2011, seconde couche de Fillon, en augmentant la durée de cotisation et retardant l'âge légal de la retraite. Chacun s'accordait à dire à l'époque, même le gouvernement, que c'était un pansement, ça cotérisait, mais voilà. Et puis voilà, 2014, la réformette de Hollande. Enfin bref, la question pour moi, elle n'est pas nouvelle. Elle date du début du baby-boom en 1943. Donc ça fait... plus de 70 ans maintenant, que nos politiques sont des incompétents. Il y avait largement le temps de le prévoir. Ils l'avaient prévu au niveau scolaire. Ils n'ont pas attendu 1990 pour créer des collèges, pour créer des lycées, pour développer les universités. Quand ils ont vu que les baby-boomers, eh bien, ils allaient un jour entrer à l'école maternelle, au collège, au lycée, etc. etc. Bon. Alors la solution. Ah ben moi j'en ai une.
Ah, le docteur Jekyll a souvent des solutions.
Sont-elles bonnes ? Je ne sais pas. À la mode japonaise. À la mode japonaise. Supprimons les retraites et la sécu. On supprime. Terminé. Et on redistribue en totalité les charges salariales et patronales aux salariés. Gain pour les salariés, 62% du salaire. C'est-à-dire qu'un mec qui gagne 1000 euros, il en gagne, hop, 1620 euros le lendemain matin. Puis chacun fait comme il veut. Après, si le mec, il veut thésauriser, si le mec, il veut machin, il veut bidule, il fait. Et puis sinon, eh ben, il fait pas. Il se démerde, et puis voilà. Et l'État peut contrôler, en favorisant fiscalement, la création de véritables mutuelles. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout.
Alors après, là, c'est une solution plus radicale.
Mais alors là, je ne sais pas si c'est le docteur Jekyll ou si c'est Mr. Hyde.
Voilà.
Parce que ce qu'il vient de nous décrire, là, c'est ni plus ni moins que plus d'un demi-siècle de combat social.
Ah, qui serait
réglé. Maintenant, il nous l'a servi version docteur Jekyll.
Jekyll.
Bon. Ben, parce que, quand même, justement. Si à la libération, on a mis en place le système par répartition, c'est qu'il...
Parce qu'il n'y avait pas encore eu la prise de conscience du prolétariat.
C'était une revendication.
L'ouvrier était juste, con, maintenant.
Revendication juste d'accéder à la retraite.
Et à un âge normal.
Et maintenant que le patronat, effectivement, parce que quand on regarde ce qu'était la part des cotisations à cette époque-là, ma foi, bon, ça devait ruiner l'économie, comme les congés payés devaient ruiner l'économie, tout devait ruiner. Donc, de toute façon, toujours, l'économie sera ruinée quand il faudra donner quelque chose au monde du travail. Hein. Bon, ça, c'est une permanence, quand même. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, ma foi, on a mis un système en place hein, où, en fin de compte, les gens, ils avaient droit à la retraite, hein, mais en fait, c'était la loterie. Il y en avait un sur deux qui y arrivait. Quoi. Alors, heureusement qu'il y a eu dénommé François Mitterrand, élu par des forces de gauche à ce moment-là unies.
En 81,
et qui effectivement a rétabli un équilibre, de façon à ce que les gens puissent quand même bénéficier de leurs droits.
En fait, c'est la faute à nos chers confrères, les docteurs et la médecine, ont augmenté l'espérance de vie, c'est une connerie. L'espérance de vie était toujours à 58 ans.
Ne parlez pas en même temps, on ne va pas vous comprendre.
Donc,
c'est bon. La faute au docteur, nous avons compris.
Donc le problème, ce n'est pas simplement de faire des constats ou de mettre tout à la poubelle. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, il faut tenir compte à la fois de toutes les évolutions technologiques, l'évolution du marché de l'emploi, etc. Et c'est un devoir que nous avons à adapter. Mais on ne fait pas... Mais ce n'est pas en adaptant avec des replâtrages, c'est en faisant... C'est en faisant
c'est en faisant justement des réformes audacieuses.
Qu'on peut régler à quelque chose. Alors, bah, écoutez, vous savez, ça va vite.
Fais le commentaire, toi.
Ça va vite, cette émission avec nos trois docteurs. Alors, ils n'ont peut-être pas eu le temps de dire tout ce qu'ils avaient à dire. Alors, peut-être un mot, Jean-Pierre. Que j'appelle m'abuse, bien sûr, le docteur.
Absolument. Non, mais moi, j'insiste beaucoup sur le principe de la réduction du temps de travail, et je pense qu'on a les moyens, la société a les moyens de réduire de manière drastique, comme je disais tout à l'heure, le temps de travail, soit journalier, soit hebdomadaire, soit annuel, soit dans toute la vie de travail.
On a compris. Jekyll.
Bah, visiblement, la CGT n'est pas bien au courant sur ce coup-là. Quoi. Dans l'émission qui a été diffusée lundi avec Serge Ragazaki, on lui a proposé les 22h. Je dis, il n'était pas bien au courant. Quoi.
Bon, bah, écoutez, cher docteur, on a essayé de faire ce qu'on a pu, comme d'habitude, avec notre clinique qu'on retrouve tous les samedis sur les ondes de Divergence FM, et on est entre 12h10 et 12h30, et ça dure en gros une vingtaine de minutes. Eh bien, écoutez, on va la semaine prochaine essayer de trouver un autre sujet. Peut-être déjà le Dr. Jekyll a une idée.
Oui, on va parler de la guerre.
Ça, c'est un sujet qui va très bien à nos trois docteurs. Allez, bah écoutez, à samedi prochain.
Bye bye.
Ciao. Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?